Bonjour à tous, je suis Boreil, l'auteur du livre Musique 2.0, un livre édité par l'IRMA et préfacé par Olivia Bécassis, le directeur de Watt. À la lecture de ce podcast, Céline Giusiano, à la prise de son, Yann Lamballé, et à la conception sonore, Fabien Skillant. Et tout de suite, voici votre podcast.
La télévision ne favorise pas la diversité musicale. Si la radio a fortement accru la notoriété d'une minorité d'artistes, la télévision a créé et développé des notoriétés. Les émissions de télé-réalité telles que Star Academy ou À la recherche de la nouvelle star ont pour concept de donner naissance, en quelques semaines de prime time, à de véritables stars de la chanson alors qu'il fallait, autrefois et aujourd'hui encore, plusieurs années pour développer un artiste. Mais le reproche fait à la Starac s'applique aussi à d'autres émissions qui ne favorisent pas la diversité musicale. Trafic, qui semble être une très bonne émission, promeut des artistes comme David Bowie, Blur, R ou Françoise Hardy, qui ont déjà un nom dans le milieu. Or, l'exposition est une condition indispensable pour la diversité. Les médias doivent jouer leur rôle de découvreurs de nouveaux talents et ne pas diffuser uniquement des artistes confirmés. Il y a un manque de diversité dans les genres également. Nul besoin de s'appuyer sur nombre d'études pour constater que le jazz, la world music ou la musique classique sont sous-représentés parce qu'ils touchent des cibles ne correspondant pas au grand public. Mais si l'on n'éduque pas l'auditeur à l'appréciation de ces genres, ceux-ci resteront mis à l'écart médiatiquement parlant. C'est l'association entre la stratégie de développement artistique à court terme des majors et la concentration des médias qui étouffe la diversité. Faire vite et bien au détriment du renouvellement artistique, de la diversité et au profit de la rentabilité. La télé-réalité, un succès financier pour les chaînes. Les chaînes de télévision ont très bien su capter des revenus en diffusant de la musique. C'est avec la télé-réalité qu'Universal a cherché à conquérir les 12-18 ans. Certes, on peut critiquer la vision artistique de la Star Academy, mais on ne peut que respecter le modèle économique mis en place. L'idée est simple, puisqu'il s'agit de sélectionner la future star grâce à un casting national, puis au vote du public. Elle répond à l'une des difficultés explicitées en introduction vis-à-vis de la nature du marché qui est un marché de l'offre et dont on ne peut connaître ce que les consommateurs désirent écouter. Et si on laissait le téléspectateur choisir ce qu'il aimerait entendre? Les consommateurs sont appelés pour être créateurs de produits et paient pour ça. Pour élire les candidats, le public doit composer un numéro de téléphone surtaxé, 0,56 € l'appel, ou envoyer un SMS, également surtaxé, 0,35 € l'appel, plus le prix du SMS, variable selon l'opérateur. Multiplier 0,56 ou 0,35 € par des milliers, voire des millions d'appels. C'est ce que l'on appelle le marketing participatif. Nicolas Bordas, vice-président exécutif de TBWA France. Le coup de génie de la Starac, c'est d'avoir déringardisé le radio-crochet en valorisant le karaoké. Nous ne sommes plus dans la culture de l'auteur-compositeur-interprète, ce qui permet à chacun d'y croire, de tenter sa chance. Ainsi, le casting en direct donne l'occasion aux apprentis artistes de révéler leur talent, de renouveler l'expérience du public et donc de le fidéliser. Nicolas Bordas ajoute « La clé aujourd'hui est d'offrir une expérience d'épanouissement personnel. » Pour créer de l'attachement à la marque, selon Xavier Romaté, qui occupe le poste de directeur général de DDB France. Créer de l'attachement entre la future star et le public, voilà comment lui assurer une réussite. Contrairement aux stratégies de communication précédentes, on n'impose pas une star au public, mais on lui propose de choisir. Enfin, ITF1 est utilisé pour pousser le public à déposer des messages aux élèves par SMS ou téléphone, 0,34 € la minute. En les relayant à l'antenne et sur le net, la chaîne accroît la notoriété des élèves sur les deux canaux. Afin de toucher les jeunes internautes pour accroître son audience et disposer d'un espace publicitaire supplémentaire sur le web, Star Academy s'est uniquement associée à MSN.fr, le cinquième site français. Les deux grands gagnants à chaque prime time sont évidemment Universal et TF1. Pour TF1, la musique est un moyen et non une fin. En effet, cette émission leur permet de créer une base de données, de générer des ventes, fidéliser le public, accroître l'audience et donc le prix des espaces publicitaires. Patrick Lelay ne semble pas s'en cacher. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. C'est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise. Les recettes publicitaires de la 4e édition de Star Academy bénéficient d'une tendance à la hausse, alors que les tarifs des spots sont restés stables par rapport à 2003. De 90 000 à 115 000 euros brut, le spot. En 2004, la chaîne a enregistré des recettes de 170 millions d'euros. En ce qui concerne Universal, l'arrivée de la télé-réalité a contribué à la prise d'une part de marché importante sur les singles. Ainsi, en décembre 2001, les ventes des artistes de la Star Academy et de Bobstar représentaient 40% des ventes de singles en France. Les intérêts économiques ont pris le contrôle de la qualité artistique puisque le processus de création n'est pas pris en compte dans ces émissions. La composition n'est pas le critère principal des castings. La recherche de profit a été clairement privilégiée à la recherche artistique, poussant l'ensemble de la population n'appartenant pas à la cible de ces émissions à se tourner vers un autre média, Internet. Un monopole sur la diffusion. Les diffuseurs ont aussi pris le pas sur les maisons de disques. De fait, Énergie, TF1 et M6 verrouillent l'accès au grand public pour un certain nombre d'artistes ayant un réel talent et ou potentiel commercial. M6 a son propre label de musique et valorise donc ses propres artistes. M6 Interaction représente 6 millions de disques au premier semestre 2005, 21 semaines consécutives numéro 1 des ventes de singles sur les 26 premières semaines de l'année 2005 et un partenariat avec Ilona Mitrossé, Un Monde Parfait, meilleure vente de singles en France. 1,5 million d'exemplaires vendus et 15 semaines numéro 1 des ventes. Si on observe le classement des singles de la semaine du 22 au 29 juillet 2006. Numéro 1, La Plage, Coup de boule. Numéro 2, Coé, Zidane, Yva Marqué. Numéro 3, Christophe Willem, Sunny. Numéro 4, Nadia, Rock. Numéro 5, Gnarls Barclay, Crazy. On remarque que trois d'entre eux ont des partenariats ou des liens étroits avec TF1 et M6. Coé et Nadia pour TF1, Christophe Willem pour M6. Pour toucher un maximum de personnes et bénéficier de revenus importants à court terme, une exposition sur les médias ayant la plus grande audience est indispensable. Néanmoins, les bénéfices sont proportionnels aux investissements marketing. Sur un marché concentré et où règne une forte concurrence, il est particulièrement difficile de mettre en place des stratégies de commercialisation peu coûteuses, afin de se différencier et d'être rentable à court terme.